Vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon poste. Colosse, son micro toujours prêt pour la riposte. Divise l'opinion à la butée Pascal. Te fait voir des étoiles comme un voyage astral. Sonné comme saut de Poppins qui sur le mescal. Le tour de la planète box sans escale. Le plus grand de tous les temps, la Mohamed Ali. Encore plus résilient qu'était Arturo Gatti. Laurence écoute parler et qu'importe ce que t'en dis. Tu vas finir au tapis, champion de catégorie. Laurence écoute parler et qu'importe ce que t'en dis. Gauche, droite, gauche.
En direct de ton podcast préféré en, je pense, en Amérique du Nord. Puis il faut que je me dépêche parce que la plupart des gens qui écoutent le podcast travaillent chez Postes Canada le dimanche de jour. Donc, quand ils reçoivent le podcast pendant leur quart de travail, ils sont plus d'une soixantaine à écouter. Tandis que si je les rate, ceux-là, bien, je les perds parce que c'est pour ça, là, que, c'est pour ça que je me dépêche finalement. Actualité. Il va y avoir une éclipse solaire, je pense. Et comme j'aime toujours vous instruire, c'est pour ça que je vous ai préparé un top 10 des choses à savoir sur une éclipse solaire. Bon, premièrement, on va vivre une éclipse totale. En gros, vous avez trois joueurs. Ici, il y a le Soleil, la Lune et la Terre. La Lune, elle, est en orbite autour de la Terre et elle va venir s'interposer entre le Soleil et nous, le Québec. Et la Lune cache le Soleil d'une manière plus ou moins profonde. C'est ça qu'on va appeler une éclipse. Ce qui arrive, c'est que pour la première fois, c'est comme un jeu d'hasard parce que le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune, mais la Lune est 400 fois plus petite, donc par un concept de un étant plus rapproché que l'autre, il paraît plus gros que l'autre, il va avoir une éclipse complète. Okay? Il va cacher entièrement la Lune. Ça, c'est, je me rappelle parce que j'ai appris ça en géographie en secondaire 4. Donc, c'est ça qui va arriver, là, c'est que la Lune étant éclairée par le Soleil, elle projette dans l'espace un ombre. Et là, c'est un ombre, imaginez un genre de cône, OK? Et là, le cône va remplir au complet le Soleil. Donc, on ne verra plus rien, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est le point numéro 1. On ne verra plus rien lundi. Ça prend... tu sais, un alignement parfait, les conditions nécessaires, c'est vraiment... tu sais, ça n'arrive pas souvent, là, je pense que ça arrive aux 42 ans, un alignement parfait. Puis là, en plus, ça arrive en haut du Québec. Donc, on ne verra plus rien pendant à peu près 3 minutes. C'est une coïncidence, c'est ça que je vous expliquais. Le concept du 400, le chiffre 400, c'est que le Soleil est 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune, mais 400 fois plus petit, là, je vous l'ai dit. Mais exemple, en Colombie-Britannique ou à Victoria, ils vont être assombris à 86 %. Nous, on va vraiment être assombris à 100 %. On ne verra plus rien. S'il va faire noir, là, ça va être effrayant. Donc, on ne verra plus rien. Aussi, on entend souvent comme exemple. On va dire, je sais pas, moi, mettons, là, si j'avais une nouvelle à annoncer, j'attends que le Canadien fasse un gros échange, puis là, si je suis un politicien, je monte les taxes. Là, on va dire, une éclipse médiatique. Pendant que tout le monde s'occupe du Canadien, toi, tu te faufiles par en dessous. Ça, c'est une éclipse médiatique. Ou vendredi, j'étais au party de fête de Philippe Farley, puis à un moment donné, je me suis mis mal à la tête, j'avais pris juste 4 bières, mais j'étais fatigué, j'avais mal dormi déjà au début. Je ne voulais pas que mes amis m'achalent pour pas que je m'en aille, vu que je suis un animateur de podcast connu. Donc, je me suis éclipsé. Pendant que le monde chantait « Bonne fête » à Farley, il regardait Farley, je suis parti de l'autre bord. Ça, c'est ce qu'on appelle un s'éclipser d'un party. Donc, voilà, vous êtes prêts. C'est très dangereux de regarder une éclipse à l'œil nu. Les lunettes fumées ne servent absolument à rien. Vous allez vous brûler la rétine. Un télescope, tu vas devenir aveugle, OK? Ça te prend des lunettes, de mémoire, c'est ça te prend des ISO 12-312. Il faut vraiment que ce soit écrit ça, sinon, tu vas ramasser à l'optométriste, tu te plaindre que tu es aveugle dans les minutes, OK? Sinon, je ne sais pas, attendez de regarder des reprises à TVA. Donc, c'est ça, le 8 avril en 2024, on ne verra plus rien. C'était ta chronique importante sur l'éclipse. Sinon, grosse semaine, on a fêté la fête de Philip Farley. J'ai écouté WrestleMania hier où The Rock a vaincu Cody Rhodes en finale. Et je vais, ce soir, aujourd'hui, je vais vous faire un podcast. J'ai fait mes lunchs. C'était l'anniversaire de... Je peux dire quasiment de ma copine, là, tu sais. Quand quelqu'un, ça a beau, c'est une, comme une meilleure amie, mais que j'aime beaucoup. Donc, moi, je vais vous dire une affaire. Tomber en amour avec votre meilleure amie, fille, je pense que c'est normal, tu sais, parce que déjà là, tu as plein de la complicité, tu as plein de points en commun. Moi, j'ai la chance que, tu sais, comme en plus, elle est magnifique, donc c'est sûr, des fois, tu tombes un peu en amour, tu es en amour, c'est pas grave, tu flirtes, petite phrase de Cruz, t'es heureux, la vie est belle, c'est juste, c'est la vie, ça, t'as le droit de tomber en amour avec ta meilleure amie, tu sais, c'est accepté en 2024. Donc, parfait. Tu sais, je suis en amour aussi avec Martine Vaillard-Bisson. Je veux pas qu'elle m'appelle pour me dire « On sait bien, je suis passé deuxième. » Non, Martine, je t'aime aussi. Donc, c'était le début de ton podcast. Ça sert à rien, ça, cette chronique-là. Chronique amoureuse, chronique éclipse. On va passer aux choses sérieuses. Fightnight.co, l'unique commanditaire de ton podcast préféré. Benjamin Amel Théberge, qui est en train de devenir un génie de l'organisation d'événements sportifs. Lui, c'est facile. Mettons Benjamin, et il rentre dans ton projet. Boum, ton projet a du succès. Donc, Benjamin Amel Théberge, fightnight.co. Présentement, on recrute. Tu veux te battre? Tu as envie de te battre? Et tu t'en vas sur fightnight.co, le défi du peuple, en mode inscription. Tu t'inscris, tu réponds aux questions sur ton expérience. Benjamin te trouve un adversaire à ta portée. Tu t'affilies à un club de boxe. Tu t'entraînes. Tu es dans la shape de ta vie. Nous autres, on fournit les feux d'artifice, les émotions. Et tu vis le plus beau moment de ta vie. Tu peux aussi cliquer sur streaming et acheter le dernier gala à un prix modique où tu as la chance d'entendre mes merveilleux commentaires. C'est 18$ pour 6 mois. Tu peux l'écouter toute ta vie, si tu veux, OK? Fait que, si je sais compter, là, 18$, 6 mois, 180 jours, ça revient 10 cents par jour, m'écouter parler. C'est quasiment une aubaine. Si tu veux, c'est ça. Fait que, abonnez-vous en grand nombre, payez pour m'entendre. Sinon, fightnight.co pour t'inscrire. Cette semaine, en boxe, il s'est passé... C'est passé des petites affaires. Je vais y aller avec. Je vais y aller avec le point qui me dérange le plus. Alexis Barrière joint les rangs du groupe Yvon Michel. Et là, je dois vous admettre que je suis mélangé comme un cheval dans mes lasses, OK? Parce que là. Premièrement, on va l'entendre. Hey, on va le faire. On va l'entendre. Yvon Michel sur Alexis Barrière.
On a intérêt à notre compagnie et la confiance en notre équipe. Alexis Barrière est un grand athlète, un boxeur au talent illimité. Je suis convaincu qu'on va être capable de l'assister à ce qu'il rencontre ses objectifs. Alexis a tout le potentiel pour devenir une grande vedette, non seulement ici au Québec, mais sur la scène internationale. Et je suis extrêmement confiant de voir comment il s'est entouré pour être capable de se rendre jusqu'au bout. Il y a un point que je veux vous préciser, c'est qu'on a une volonté indélébile de s'associer ensemble. On n'a pas encore un contrat formel.
Bon, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, okay, c'est que selon Yann Pellerin, il y a toujours un contrat en main avec Alexis Barrière. Même chose qu'il y a un contrat en main avec Derek Pomerleau. Et là, on voit Yvon Michel qui sort publiquement. Puis là, je vais vous dire, arrête de casser du sucre sur la tête à Yvon Michel. Écoutez, je vais vous donner des faits. Vous ferez bien ce que vous voudrez avec. Vous êtes des adultes. Il sort publiquement pour annoncer qu'il y a une entente bilatérale et qu'avec Barrière, mais qu'il n'y a pas d'entente formelle, puis que les structures sont réglées. Ça, ma question, c'est pourquoi ne pas attendre que ce soit réglé pour sortir ça? Là, j'ai réfléchi, parce que j'ai un cerveau qui sert qu'à la boxe, OK? Et ce que j'ai compris dans ma tête, là, c'est peut-être complètement faux, OK? Mais je vous donne mes options. Je crois, après avoir réfléchi, que le Casino de Montréal était possiblement déçu de la qualité des derniers galas et a peut-être lancé un ultimatum à Yvon où il allait se retirer de la commandite de ces événements si c'était pas meilleur. Tu sais, ça, c'est une idée que j'ai. Et que là, ça pressait d'annoncer Alexis Barrière, même si on n'a pas de contrat formel avec lui. Parce que si vous y pensez, ils ont annoncé Jonathan DiBiella en énervé. Il n'a jamais reboxé. Puis je ne sais pas s'il est chez groupe Yvon Michel. Je sais qu'il a perdu son titre encore un sur la balance après un problème de déshydratation en fin de semaine. On a vu la même chose avec deux boxeurs russes qu'ils vont annoncer pendant la COVID en co-signature avec Lou DiBiella et qui sont disparus aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'il y a une conférence de presse que sensiblement le boxeur va se battre avec Yvon Michel. Mais là, on y va fort. Là, t'sais. On annonce que le père de Barrière a pris sa retraite pour gérer la carrière de son fils. On nous annonce que Barrière va aller s'entraîner avec Sugar Hill en Floride. Mais, étrangement, il y a un contrat avec New Era et Yann Pellerin. Et on ne se cache pas pour dire du côté à Yvon, je lui ai trouvé un partenaire d'entraînement en Tyson, avec Tyson Fury, Pierre Govic. Mais c'est parce que ça commence puis ça finit où le maraudage dans un contrat? Ça commence puis ça finit où les conflits d'intérêts si Yvon Michel était chez Box Canada et négociait avec Barrière, qui est sous contrat avec un autre pour le signer. Fait que moi, je comprends rien. Okay? Pour vrai, je comprends rien. Ça va prendre un journaliste d'expérience, clairement, c'est pas moi. Ou ça va prendre un professionnel, un juge, qui va être obligé de trancher entre le contrat en main de Yann Pellerin et la libération de Barrière pour signer avec le groupe Yvon Michel. Donc, moi, je comprends rien. Il va falloir appeler Claude Poirier. Mais, d'un point de vue sport professionnel, c'est la signature que Yvon Michel avait absolument besoin. Pourquoi? Parce que il reste 5 boxeurs chez Yvon Michel. Je vais même vous y aller dans l'ordre. La meilleure des 4, c'est Marie-Pierre Houle. Je l'aime d'amour. Après ça, tu as Germain, qui a plus 20 ans. Okay. Tu as Agdenis, qui, selon les rumeurs, quitterait dans les prochains mois. Tu as Kim Clavel. On en parlera en long en large tantôt. Puis tu as, j'y vais le tour. Donc, tu avais absolument besoin de repêcher. Tu avais besoin de repêcher premier. Puis Barrière, là, c'est un animal. Là. Il passe tous les défis. Ses deux derniers combats, il a gagné au premier round. Peut-être que c'est pour ça qu'il veut s'en aller, parce qu'il n'était pas content de l'opposition qu'il a eue. Il a gagné 3 de ses 4 derniers combats au premier round. Là, il est allé aux Jeux Olympiques. Il essayait d'aller aux Olympiques. Il s'est fait Il s'est fait éliminer par un Français, un dénommé Djamili Aboudou Mwendze. Mais ce qu'on dit du côté de Barrière, son clan, c'est que ils haïssent tellement les professionnels qu'ils ont fait exprès pour le tasser dès qu'il y avait une chance. T'sais. Ils haïssent ses professionnels. C'est pour ça qu'il a perdu 29-28, 28-29, puis 29-28. Une patente de même. T'sais, c'est... Non. Deux juges 29-28, puis tous les juges 29-28, puis un qui avait 30-27 pour Barrière. T'sais. Comme ils disent qu'il y avait comme... Il y a comme une machination pour sortir les professionnels des Jeux olympiques. Et ça, je le crois. Mais d'un point de vue sportif, Barrière, c'est la grosse affaire. Là. Il parle bien, il est beau, il est bon, il est fort. C'était le gars assigné pour la suite des choses chez Groupe Gym. Mais ils ne sont pas sortis de l'auberge. Si Pellerin brandit le contrat pour conserver Barrière. Donc, deux choses. Ça va être intéressant de voir. Non, il y a même une autre chose, je vais vous dire. C'est mon podcast, je prends les raccourcis que je veux. À une certaine époque, Oscar Rivas était signé chez... Faites le test, là, allez sur Google, marquez Oscar Rivas, report de combat. Yvon Michel avait Harley Moon derrière lui et il n'était pas capable de trouver des combats pour Oscar Rivas. Et un moment donné, il y a eu trois reports dans le même mois. Okay? Puis ça a fini contre... Bon, je pourrais vous dire le vrai nom. Là. J'ai trouvé comment aller sur Google pendant que j'enregistre avec mon téléphone. Rivas, il y avait eu trois reports. Fait que là, ça allait mal. T'sais. Il avait failli aller se battre en Nouvelle-Écosse. Ça finissait plus. Puis finalement, il avait affronté Carl Davis Drummond. T'sais. Ça avait duré 66 secondes. Il a affronté... Après ça, on n'était pas capable de trouver d'adversaire... En avril, l'année d'après, il avait affronté Sergio Ramirez, qui est le plus petit, vous ne me croyez pas, allez voir sur BoxRec, qui est le plus petit poids lourd au monde à 5 pieds 7. C'était très, très faible, genre, comment qu'on matchmakait Rivas au Québec. Et là, on croit être capable, sans Harley Moon, cette fois-ci, de trouver les bons adversaires pour Barrière. Mais rappelez-vous là, que Christian Hammer, Erkan Tepper et Marius Wash pour, je rajouterais Samuel Peter, pour Arslanbek Makhmoudov, ça coûtait 200 000 la pièce. Où c'est qu'Yvon Michel va trouver l'argent pour contenter Barrière? J'ai aucune idée. Donc, ça va être le dossier le plus intéressant. Comment faire progresser intelligemment la carrière du poids lourd Barrière avec pas une scène. Donc, à suivre. L'autre rumeur, c'est que mardi de la semaine qui s'en vient, Yvon Michel va annoncer s'être entendu avec Derek Pomerleau. Toutefois, encore là, Yann Pellerin a le même contrat en poche. Donc, pour moi, là, la paternité de Barrière et Pomerleau va plus se jouer d'une salle de cours que dans un test de sperme. C'est une blague, là. Test de paternité, ça va être en cours. Peut-être ma pire blague. Je ne fais plus jamais de blague de test de sperme. C'était vraiment pas drôle. Donc, c'est ça. Dossier Barrière, Pomerleau, ça risque de brasser autant en dehors des câbles que d'un câble. C'était ton éditorial.
C'est moi le best, on m'aime en cachette comme un gars de Michel. Ceux qui sont pas d'accord se plaignent comme Yvon Michel.
Nouvelle chronique qui débute aujourd'hui, ça s'appelle « Je te lis BoxRec en chialant ». Ok, ça c'est ma nouvelle chronique. Il y avait des millions de personnes qui me réclamaient « Laurent, tu chiales pas assez ». T'es rendu trop positif. Non, inquiète-toi pas. Je vais chialer. Laurent, tu chiales pas assez contre ton employeur Eye of the Tiger. Non, je vais chialer aussi contre eux autres. Là. Quand ils le méritent, il faut que je le dise. Donc, voici du chialage. Cette semaine, il y avait une carte de Yvon Michel au Casino de Montréal. Premier combat, Red Towey contre Pavel Albrecht. Bon, victoire de Red Toé par décision unanime. Moi, je ne sais pas si c'est le fait que son nom est dur à dire ou que j'ai l'impression qu'il ne parle pas français. Mais Red Toé, il me dit rien. Je ne connaissais pas des amateurs. J'ai aucune idée c'est qui. Je sais pas. Red Toé ne me dit absolument rien. Mais tu sais, continue à gagner, tu vas peut-être piquer ma curiosité. Théotilus Obuzu a fait un match nul avec Peter Novak. Un tchèque. Ah, OK. Lui aussi ne me dit rien. Mais on le ramène constamment sur les cartes du groupe Yvon Michel. Il va être là le 16 mai prochain. Ensuite, Pomerlo. Et là, il faut que je vous dise, c'est vraiment bizarre. Ça fait deux jours que j'ai mal en dedans pour me frapper la tête sur un mur. Mais je fais le podcast quand même. Mais là, je sens ma dent qui enfle comme ça voulait exploser. Mais mon rendez-vous, il est le 17... Il est samedi prochain. Genre, que j'endure, tu sais. Deux Tylenol, deux Advil, puis on passe à d'autres choses. Mais là, j'ai mal pendant que je vous parle. Donc, j'accepte les dons en codéine ou en... Je sais pas. Amenez-moi des Advil à la maison. Mais lui, l'adversaire de Pomerlo, qui s'appelait... mais il s'appelle encore, là, il n'est pas mort. Carlos Mohamed Rodriguez, était crédible. Il a fait 8 rounds avec Fidel Maldonado Junior. Il avait un combat nul contre Ken Cruz. Il avait fait 2 rounds contre Brian Mendoza. Mais bref, il avait fait une split décision son dernier combat contre le fils de l'Olympien DeWitt Fraser, Joshua Fraser, gros prospect en Ontario. Puis il avait perdu une split contre Farid Ngoga, qui est le meilleur boxeur de la République du Congo. Donc, on pensait que Pomerlo allait avoir son premier test. Bang! Il a pété le gars au deuxième. S'en sortirait qu'un contrat, supposé revenir le 16 mai. À suivre. Là, Marie-Pierre Roule n'était pas allée avec le dos de la main morte quand elle a déclaré « Je vais arrêter Marisa Joanna Portillo. » Mais Portillo, elle avait 40 combats professionnels. Puis une fiche qui faisait pas de sens. Là. Pour vrai, c'était dégueulasse. Sa fiche était dégueulasse. Elle a fait la limite avec Cecilia Brancaus en 22. T'sais, il y avait ça. Là, elle a fait la limite avec Anaïs Star Sanchez. Mais c'est pas parce qu'elle était pas elle est très résistante. Mais elle avait aucune victoire. Ça faisait pas de sens. Elle avait des victoires contre une fille de 1,13 puis la même à 1,17. Ça faisait aucun sens comme adversaire, à part le fait qu'elle était résistante. Fait que là, ma Marie-Pierre, que j'aime d'amour, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle se ramassait contre un adversaire tout croche, qu'elle pouvait soit battre au juge en la balayant comme tous les autres, ou en essayant de faire un stun pour la knocker. Moi, j'avais l'impression que ça s'en irait au juge puis que ça allait faire comme toutes les autres. Fait que Marie-Pierre, dans ma tête, elle avait comme une chance sur 5 de faire son stun puis de s'en sortir. Puis sinon, elle allait juste mal paraître contre une adversaire trop défensive. T'sais. Puis la fille avait perdu souvent des points pour accrochage. Mais non, ma Marie-Pierre, ma nouvelle meilleure amie, ben après Martine Vallard-Bisson, donc, dans le fond, c'est mon ami préféré à sortir avec Philip Farley. Là, boum, elle passe la fille en 3 rondes. Je vous le dis, je vous le répète, Marie-Pierre est très crédible. Le téléphone va sonner bientôt. Marie-Pierre roule. Va se ramasser pour un titre vacant de Kay Taylor. Un moment donné, Taylor va sacrer un titre à terre. Elle va dire, j'ai de la misère à rouler 6 titres en même temps. Elle a, présentement, elle a 2 titres à 135, 4 titres, 2 titres à 140, 4 titres à 135. Là, elle ne sera plus capable de gérer tout ça. Un moment donné, on va se lever un matin. On va apprendre. En se levant un matin, que Marie-Pierre roule. Se bat contre Samantha Worthington pour un titre championne du monde au Casino de Montréal. Là, elle l'a fait à l'extérieur. Maintenant, ça va être au Casino. Contre, c'est ça ma prédiction. Elle va affronter Samantha Worthington au Casino de Montréal pour un titre laissé vacant. La valeur de Marie-Pierre Roule est à la hausse depuis cette victoire. Bravo Marie-Pierre, tu as dit ce que tu fais et tu as fait ce que tu as dit. Ce qui est rare dans la société actuelle. Oh mon Dieu, j'ai mal. Premier podcast en direct d'une rage de molaire dans le fond de la gueule à gauche. Donc, incroyable. Et si vous pensez que c'est une rage de dents qui va mettre fin à ma séquence, vous vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Kim Clavel, elle, premièrement, dans le dossier des affaires que je n'ai pas le droit de vous dire, mais que je vous dis à chaque semaine, on avait refusé déjà 3 adversaires pour affronter Kim Clavel. L'Espagnol était le 4e choix. On le dit pas à Kim. Hein, Kim, on a refusé 3 filles. Ça y ferait de la peine. On protège Kim en cachette par en dessous par son gérant, Stéphane Larouche. Reconnu pour être un protecteur. Là, on trouve une fille à Kim qui s'appelle Farah El Bouzari. Pourquoi? Parce qu'on peut pas arriver que tout croche, ça prend une bonne fiche, puis c'est la fille qui fait la finale. La fille, elle vient ici, tranquille. Elle est timide un peu, Kim. Elle avait sa petite série de 3 victoires de suite. Elle avait pas gagné un round contre Chloé Watson au point. Mais elle a gagné un round ou 2. Je vais t'offre un peu. Elle avait gagné un round contre Mélisse Gengloff. C'était pas une mauvaise fille. Mais Kim se ramasse avec un juge, Pasquale Procopio, qui donne 95-95. Elle se ramasse à 96-94 avec Juge Guérin, qui est la juge la plus pro-Québec au monde. Je vais vous le dire. Je ne suis pas supposé vous le dire. Je vais me fermer les portes avec le prochain commentaire. Je vais faire mal à des gens que j'aime. Je vais me ramasser avec la régie sur le dos. Mais la vérité doit triompher. L'impression que j'ai, c'est que la régie a donné une petite tape ses doigts à Kim en disant « Écœure pas un juge. Dis rien contre un juge. Parce qu'on se tient entre nous autres. Alors, regarde tes propos sur Roussel. Là. Il y a un beau 95-95. T'es à un point de nul sur la carte à Guérin. On va te scraper ça, ton retour en championnat du monde. Si tu penses que tu peux jouer la fin finaude puis te parler contre nous autres à télévision. Fait que la prochaine fois que tu perds une décision serrée, ravale ton mouthpiece puis dis pas un mot. Ça ressemble à ça, les 2 cartes des juges de Procopio et Guérin. Et crois-moi qu'ils vont Michel à la maison parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Quand il a entendu le 95-95, il a lâché un tabarnak bien senti. Je blasphème jamais d'habitude, c'est pour bien appuyer mes propos. C'est clair, il ne dira pas. Ils ont eu leur leçon. Là. Mais disons qu'il est questionnable ce 95-95. Mais on n'a plus le droit de questionner. Pas envie d'avoir une lettre de blâme chez nous. Oh, c'est vrai, moi je ne suis pas un boxeur. Donc, c'est ça, Kim Clavel, valeur à la baisse, il va falloir qu'elle se reprenne. C'est pas avec un majority draw qu'elle va attirer les championnes du monde dans sa cour. Elle revient le 16 avril prochain, et là, selon mon bon ami, 16 mai prochain, selon mon bon ami Vincent Morin, il aura des tests de grande qualité pour Pomerleau, Hull et Clavel, avec Agdoni en finale à suivre. Là, on se bat, Laurent, si tu plantes, Yvon, mais ton le gars, tu travailles pour Eye of the Tiger, fait que tu diras pas un mot. Non, non. J'ai ma pleine liberté. Je suis déçu que Eye of the Tiger ait seulement 4 combats sur le prochain gala et seulement 3 combats avec des adversaires. C'est dans 3 jours la carte. Puis on n'a rien à se mettre sous la dent. Ce qu'on sait, c'est qu'Éric Bazinian va affronter Shaquille Finn. Dans un magnifique combat où Bazinian a tout à perdre, 8e au monde sur BoxRec, contre Finn qui est 29e. Finn qui frappe comme un train. Surnommé le Rhinocéros, fiche de 26-3. Le gars que le Casino Montréal va plus jouer en sa faveur. Superbe combat local. Mais comment ça, on n'a rien d'autre? Bazinian Finn, 8 contre 29. Claguette contre Mike Owen, ça va être retiré de la carte pour aller sur Teofimo Lopez. Thomas Chabot affronte le 592e au monde. Moreno Fendero affronte le 452e au monde. Un gars qui a 25 combats en carrière. Pas mauvais, tu sais, pas mauvais. Mais c'est tout. Robbio, pas d'adversaire. 3 combats à 72 heures de la pesée. Voyons. Commencez pas à prendre des mauvais prix, des mauvais plis, s'il vous plaît, chez mon bon ami Camille Estéphane de Eye of the Tiger. On a déjà assez à subir l'autre gang. Commencez pas à faire ça, donc je suis déçu. J'espère que ce ne sera pas une nouvelle habitude. Ah, j'aime toujours ça, chialer. On dirait que ça me calme. Alors, de quoi je voulais vous parler? Ah ouais, j'avais une nouvelle chronique à vous parler. Ça s'appelle Les nouvelles de la semaine. Richardson Hitchin a gagné un combat controversé contre Gustavo Limas. Puis pour vrai, oublie ça, là, tu peux pas gagner quand tu affrontes un méga prospect américain à Las Vegas. C'est toujours pareil. Pauvre, pauvre adversaire. Fait que là, Hitchin est rendu aspirant numéro 1 à 140 livres. Un vol, 117-111 et 215-113. Une absurdité. Limas a dominé et Hitchin a beaucoup accroché et accroché parce que il n'arrivait pas à gérer la puissance de Limas. Donc, l'arbitre n'a rien fait pour l'accrochage extrême. Ouais, c'est dommage pour ce Gustavo. Je vais le garder dans mon... Je vais garder Gustavo dans ma liste. Il s'est boxé. Après ça, on a eu Diego Pacheco qui a mal paru contre Sean McCallman. Et là, je me demandais, est-ce qu'on garde McCallman pour le ramener? Parce que Pacheco n'a pas été capable de dealer la vitesse, le reach et les pieds rapides de McCallman. Donc là, regardez ce que moi je ferais. Pacheco, il a dit qu'il voulait un top 10 pour son prochain combat. Mais il n'a pas dealé les mains, la vitesse, la portée puis les pieds de McCallman. Il a fait des ajustements, mais il n'y a personne qui est impressionné. Okay? Qui a de la vitesse? Qui a du reach et qui a les pieds rapides parce que c'est un ancien champion de danse en Arménie. Éric Bazinian est fait sur mesure pour Diego Pacheco s'il s'en sort contre Shaquille Finn jeudi prochain. Bon là, Teofimo Lopez dit qu'il a inventé une nouvelle méthode en défensive. Et c'est pour ça qu'il veut se pratiquer contre Steve Claguette. Il dit qu'il a offert le combat à Raymond Mouratoula, Kenneth Tim, Elvis Rodriguez. Et finalement, c'est Claguette qui a dit oui après que tout ce monde-là se sauve. Il dit c'est pour ça. Il dit c'est pas que je voulais me pitcher contre Claguette. C'est que personne ne voulait. Et là, bon, je sais pas, lui, il a déclaré qu'il allait changer sa défensive. Écoute, on verra, là. Au moins, il va avoir... il va pouvoir la travailler, sa défensive, parce que Claguette est un animal qui fonce sans arrêt. James Munguia, lui, il dit qu'il est en mission et qu'il va choquer le monde contre Canelo. Permets-moi de pas te croire, l'ami James. Bon, Joshua revient, lui, en septembre. Attends de voir qui va remporter entre Furyk et Usyk pour se positionner. Usyk dit que son truc pour battre Fury, c'est que il parle constamment à Vladimir Klitschko qui lui donne des trucs et le conseille. Est-ce que Devin Haney va essayer Pitbull Cruz? Je sais pas. Il y en a qui... Berlanga s'est présenté comme le meilleur 168 livres au monde, mais il me semble que... Il y a bien des dossiers à régler. Là. S'il veut être le meilleur 168 livres au monde, et après ça, il a lancé un défi à David Morel. Les gens ne parlent jamais de Morel. Au moins, Berlanga, on peut dire que oui, lui, il en a parlé après sa victoire contre Padraig McCrory en février dernier. Il est promoté par Eli Hearn. Il a 26 ans. Alors, regardez, là. Je sais pas quand ça va arriver, mais c'est sûr que ces gars-là vont avoir une chance un jour. C'est un peu vite, ça. Berlanga, il va pas que le dos de la main morte, le meilleur 168 livres au monde. Sinon, j'ai lu un article cette semaine qui racontait que Ryan Garcia, il veut pas les titres, il veut juste être le plus populaire possible, puis c'est pour ça qu'il agit constamment comme... quelqu'un de mêlé, écoute, moi, ça m'inquiète un peu, pour vrai. Ça m'inquiète un peu de voir Ryan Garcia qui va vraiment pas bien. De La Hoya aimerait organiser William Zepeda contre Shakur Stevenson. Il pense que Zepeda peut donner des problèmes à Shakur. Ryan Garcia a dit de Devin Haney qu'il pourrait pas casser un œuf avec un coup de poing. J'avais pris ça en note pour vous autres. Benavidez rêve de Canelo et souhaite que les Arabes lui offrent le combat à Dubaï. Sinon, que j'avais pris d'autres dans mes notes? C'est pas mal de mes notes de la semaine. J'ai pas grand-chose. On parle beaucoup d'un Pitbull Cruz contre Soubriel Mathias dans le combat des dangereux cogneurs. Sinon, ça fait le tour des nouvelles de la semaine. Toujours en direct de ton podcast préféré. On va y aller avec un classique. Tu as une chronique assez classique que j'ai appelée pour aujourd'hui les combats. Les résultats. Bakram Murtasadiev est devenu le champion de la IBF World et l'aspirant numéro 1 de la IBF en battant Jack Kulke en Allemagne chez lui au 11e round. Donc, il est très bon, ok? Moins connu du public, mais on le surveille attentivement dans la grande équipe de Laurent s'écoute parler. Les résultats de la semaine. Ça, c'est pas mal. Pas mal ce que j'aime le moins faire. Hein. Fait qu'on va le régler. On va régler ça en 3 minutes. Après ça, je vais mettre un peu de crémage. Puis le podcast est terminé. Je vous avertis, c'est WrestleMania à soir. La grosse soirée. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres dans les combats de la semaine passée? Hey, c'était donc bien tranquille samedi. C'était même à la limite un peu plate. J'essaie de trouver le résultat que je cherche pour vous autres à maison. Parce qu'il y a Richard, Papa et Rivera. J'arrive pas à trouver les résultats. Il y a Sky Nicholson qui a battu Sarah Mahfoud. Ça, c'était attendu. Le titre de la WBC était en jeu. C'est ça, je l'avais noté. Et sinon, la semaine prochaine, dans ton podcast préféré, chronique la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on a jeudi, Eric Bazignan contre Chuck Elfin. Je vous conseille d'acheter ça sur punchinggrace.ca. La finale vaut le déplacement. Hâte de voir si on a trouvé quelque chose en sous-carte. Est-ce qu'on va sortir Mary Spencer d'une boîte en surprise? C'est la première fois que Eye of the Tiger nous joue un tour et n'a rien à proposer en sous-carte. Ils ont dû vivre l'enfer, je ne sais pas. Édouard Reynaud va affronter Dan Zavar à Calgary vendredi le 12 avril. Dan Zavar. Leron Richard, qui est mon favori pour affronter un jour Christian Billy, affronte Ted Woodall le 12 avril prochain. Un magnifique gaucher avec énormément de talent, surnommé Sniper the Boss. Lui, ce serait mon choix. Et pour continuer la liste des Anglais qu'on amène se faire battre contre Christian Mbili, Melinda Watpool qui va affronter Adriana dos Santos Aranjo en Ontario le 13 avril prochain. Watpool qui devrait aller en championnat du monde. Elle accumule les victoires. Donnez-y son combat. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur ma feuille? Pas grand-chose. Écoutez, il n'y a rien la semaine prochaine. Chaque fois que je dis ça, d'habitude, il y a un combat unifié que j'ai oublié. C'est pour ça que je fais un peu attention. On a Jordan Gill contre Zelpha Barrett et Ellie Scottney contre la Française Ségolène Lefebvre en championnat du monde la semaine prochaine à Manchester sur les ondes de DAZN. Ça a bien du bon sens. Et ça fait le tour pour la semaine prochaine. Donc, c'est la fin de... Oh non, j'avais oublié. Il y a F. Ajagba contre Guido Vianello et Jared Anderson contre Ryan Mary sur ESPN+. Le retour de Jared Anderson depuis ses petits problèmes juridiques. C'était ton podcast préféré. Je vous aime tous d'un amour passionné. Surveillez les journaux, les articles vont voler. Ça brasse en boxe québécoise, mais en dehors du ring.